Bonjour, Françoise Tressart et la bande des Papous du dimanche, avec vous pour la première partie de notre émission enregistrée en public au Théâtre du Rond-Point à Paris. Les Papous, vous avez dit mauvais genre. Au menu, les portraits de tous les Papous à découvrir, mi-fiction, mi-friction, Lucas Fournier.
Lui rit. Il rit tout seul parce qu'il a compris, lui, les mots qu'il dit. C'est l'intelligence. Les femmes, non. Mais elles rient quand même.
Ensuite, à vos pamphlets et discours dans le Métropolitain, Gérard Mordillat, conducteur de la rame.
Le matin, j'accélère à fond et je freine brusquement. Ça les tasse. Comme ça, je peux en charger un max à la station et respecter les consignes de la direction qui exigent un remplissage maximum des rames.
Et pour le jeu de bluff et de pastiche sur un certain roman érotique, le tandem Hervé Le Tellier-Serge Joncourt.
Quand alors, à la fin, donc, de mémoire, donc,
de mémoire.
Parce que les images se chevauchent, bah, mais oui. Si j'ai bien compris, il y a une patte qui traîne. C'est curieux bonhomme quand même. Hein.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Une émission à savourer et à retrouver après diffusion sur franceculture.fr pour un téléchargement pendant un an, rubrique podcast, ou une réécoute durant 1000 jours. Dimanche dernier, donc, France Culture faisait son festival Mauvais Genre sur l'antenne et en public au Théâtre du Rond-Point. Après Marseille en 2012, cette deuxième édition fut parisienne. Et entre la femme fatale déclinée dans tous ses genres par François Angelier et Baudelaire, façon Fleur du Mal par Raphaël Enthoven, il y eut les papous dans la grande salle, les papous, vous avez dit, mauvais genre. Amusant de décaler les genres, d'en repousser les limites, excitant d'être à 9 papous au coude à coude sur la grande scène d'un théâtre que l'on fréquente d'habitude en spectateur. Avec moi, pour cela jouer mauvais genre, Dominique Muller, Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy, Hervé Le Tellier, Jacques Jouet, Gérard Mordillat, Gabriel Godard et Serge Joncourt. Et pour ouvrir ce numéro un peu spécial, un peu mauvais genre des papous dans la tête, je vous propose une tentative d'approche des mauvais genres en chanson. La chanson a été écrite par Dominique Muller, elle est interprétée par Gabriel Godard. Et c'est sur quel air très connu, Gabriel ?
Sur l'air de Milord, chanté par Édith Piaf. C'est en dehors des clous que le mauvais genre fleurit, chacun son mauvais goût. Nous, sans a priori, on aime le chelou, l'inconvenant, le bizarre, qui décoiffe, qui déchire. C'est la fête aux nanars, les gars un peu marlous, et les nanas fatales en ont quand même dans le chou. C'est pas Néandertal. Jadis, c'est en zonzon qu'on faisait taire un sade. La décence est maussade, au diable son blason. Mauvais genre foutraque, fais-nous ton cinéma. Fais sauter l'Olympia, ponds-nous des pages braques. Fais-nous voir, fais-nous lire tes désirs, nos frissons. Mal poli, polisson. Va, poète, poète, prends ta lyre. C'est en dehors des clous, c'est au bord dans les marges, que le mauvais genre des coups, des styles, la surcharge. Le grand genre est jaloux, mais y a pas de petit art. Au rond-point, le roi lyre est fou de son bazar. Pourquoi crier au loup, au mauvais genre addict? Levons nos verres glou-glou, comme ferait Piaf édict. C'est pas dans la dentelle que l'émotion déboule. Horreur quand le sang coule, science-fiction à l'appel, les bandes dessinées moins sages que Tintin, et les sombres bouquins sont pleins de résinés. Il sait ensevelir l'ennui des inhibés dans le genre série B, zombie, vampire, délire. Allez, viens, mauvais genre, toi qui as l'air d'un môme, emmène-nous, mauvais genre, jouer dans ton royaume. Da 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 da. Allez, viens, mon trésor, dans l'envers du décor. Da 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 da. Viens faire le mat à mort, l'arsouille, t'es un milord.
Aujourd'hui, les papous seront tour à tour rhétoriques, parodiques, érotiques, pamphlétaires, bluffeurs, pasticheurs et portraitistes. Raconte-moi un écrivain des papous dans la tête. Chacun fera le portrait d'un de ses amis comme un personnage de fiction, soit romanesque, soit théâtral. Et comme nous sommes sur une immense scène de théâtre, la tentation est forte de voir ses amis en héros. Lucas Fournier, c'est à vous d'ouvrir le bal des portraits avec le portrait d'Hervé Le Tellier. Hervé Le Tellier, montrez-vous. C'est lui.
Hervé Le Tellier, c'est l'amant de Marguerite Duras.
Oh. Autrefois.
L'amant de la Chine du Nord, c'est lui. Il est là, Hervé. D'abord, la voix. Il dit des mots, Hervé, c'est des mots qui parlent. Les mots qu'il dit, on ne sait pas. Les mots qu'il dit, on ne comprend pas. Mais c'est des mots quand même. Et les filles, elles écoutent. Lui rit. Il rit tout seul parce qu'il a compris, lui, les mots qu'il dit. C'est l'intelligence. Les femmes, non. Mais elle rit quand même. Parce qu'il est drôle, forcément. Et puis son cœur, c'est un artichaut grand, terriblement, avec des feuilles aussi, toutes ces feuilles pour écrire des mots. Sur le cœur artichaut, il a des poils. Mais sur le front, non.
Oh, c'est très méchant.
Les femmes, elles ne savent pas pourquoi elles écoutent ce grand front qui parle. Mais c'est de l'amour. Et après, bien sûr, l'amour, il dit « Je sais très bien le faire », alors il le fait forcément.
Hervé Le Tellier, vous avez l'occasion de vous venger, mais ce sera sur Jacques Jouet.
Oui, heureusement qu'on découvre les textes. Oh, combien de romans, combien de beaux poèmes nous offre Jacques Jouet, le vaillant capitaine, genre ad hoc, sous contrainte, d'un croiseur oulipien, rapide, insubmersible et n'ayant peur de rien. L'écriture toujours le prend comme une mère. Il couche sur papier de nombreux caractères, 500 au matin, mais comme sans effort, il en est à 10 000 à l'heure où je m'endors. Comment, face au bonhomme, ne pas être jaloux? C'est pour se consoler que je me dis qu'il est fou.
Jacques Jouet, portrait de Dominique Müller.
Dominique Müller, dit Schöne Müllerin, ou La Belle Meunière, chantée par Franz Schubert. Die schöne Mühle. Mais c'est pas, non, c'est pas cet air-là. Pas du tout. Lorsque je pense à elle, die schöne Müllerin, elle est de la farine dont on fait les forelles. Dont on fait les forelles. Oui, cette fois, c'est le bon air, je pense. Elle est de la farine dont on fait les truites. La truite de Schubert. Donc, la truite est meunière. Dominique Müller. Est-ce que ça va vous plaire?
Vous venez de faire connaissance avec l'étrangeté radicale de Jacques Jouet. Dominique Muller pour le portrait de Gérard Mordillat.
Gérard, c'est Jean Valjean. Comme un forçat, il bosse. Des vivants et des morts dénonçant la galère, il veut la vie en rose et non la vie en rosse. Secoue l'ordre établi, l'air de ne pas avoir l'air. Parole d'évangile, il a un cœur de gosse. Ses yeux clairs cachent-ils les feux de sa colère. Wow.
Gérard Mordillat, attention, je vous ai confié Monsieur Pouy, Jean-Bernard.
Il pouvait pas mieux tomber. Parce que pour moi, Jean-Bernard Pouy, JB, ce n'est pas un rôle. Aucun ne serait à sa mesure. Non, c'est un acteur. Et pas n'importe quel acteur, un acteur qui, justement, avale les rôles, les vampirise, les met dans sa poche, où ils disparaissent. JB, c'est Michel Simon. Un type qui paraît toujours entrer en scène ou apparaître à l'écran par inadvertance, mal peigné, mal rasé, mal fagoté, la diction approximative, l'œil fatigué. Mais dès qu'il est là, on voit que lui, il vitrifie ses partenaires. Alors oui, Pouy est fondamentalement bizarre. J'ai dit bizarre.
Jean-Bernard Pouy, c'est à vous pour le portrait de Serge Joncourt.
Mystérieux, boulimique, l'air de n'y pas toucher, Joncourt, breton-breteur, jovial, mal embouché, volubile, taiseux, de Shakespeare un héros, l'égal de Mercutio, l'ami de Roméo. Certes, il n'est pas mort, et même bon vivant, énervant, captivant, et surtout émouvant.
C'est vrai, c'est vrai. Il est content, Serge Joncourt ?
Roméo, ça m'irait mieux. Enfin bon.
Alors c'est à vous, Serge Joncourt, pour le portrait de Lucas Fournier.
Ah, Lucas Fournier. Lucas Fournier, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la Malou les Bains avant tout. Oui. La Malou, la Malou. C'est là que Lucas Fournier est né. Et puis depuis ce jour, il chante et rit toujours le troubadour. La Malou, la Malou. Royaume de cœur du fin bretteur. C'est l'Offenbach du rire, le messager du délire et du meilleur. On l'a vanté tous les collègues. Le pur esprit et les bons mots. On a vanté jouer Muller et le Tellier même et tous les poteaux. Pardon. Mais on oublie tout. Quand on voit le beau Lucas Fournier, on devient fou à saisir ses subtilités. Dans son esprit, il nous entraîne dans le délire pur et sans argot. Car Lucas, c'est l'âme même de celle qui s'y doute tout son âme mieux que le soleil de la Malou. La Malou, la Malou.
À vos pamphlets, le coup de gueule serait-il mauvais genre? Certainement. C'est une occasion de lâcher tout ce qu'on a sur l'estomac, sur le cœur aussi, de dire leur vérité à certaines personnes ou à certaines choses. À vos pamphlets, c'est Jacques Jouet, le pamphlétaire. Jacques Jouet, il aime bien râler, c'est même un peu sa spécialité. Et parfois, il est capable d'une mauvaise foi terrible. Alors, vous râlez contre quoi?
Vous savez que j'aime pas les shorts.
Ben oui, on le sait.
Les shorts sont des pantalons inachevés, et je déteste l'inachèvement. Mais il y a parfois des choses achevées que j'exècre tout autant. Tiens, par exemple, les mugs. Un mug, ah, c'est une espèce de tasse. Non, ça n'a pas le droit de s'appeler une tasse. Un bol, pas davantage. Un mug, c'est une tasse qui a honte d'elle-même et qui veut se faire passer pour un bol. Ou alors un bol qui a des complexes et qui se rajoute une anse. C'est sans courbe ni cambrure. Le côté est terriblement droit, affreusement droit, tristement droit. L'anse est une anse d'aisance. Même à un pot de chambre, à côté d'un mug, on peut trouver des qualités. Ah, ne me dites pas que vous demandez à vos lèvres de rouler une pelle à la margelle brûlante d'un mug. C'est pas pour les lèvres, ce contact sinistre. Ce pourrait être à la rigueur une mesure, comme ces trucs qu'il y avait jadis, vous savez, avec une poignée au bourg courbée pour les faire tenir sur leur bord du bidon de lait. Et Lance, Lance est bête. Et sans dessin subtil, Lance est moche, le mug est moche. Le mot mug lui-même est un mot qui meugle. J'ai rien contre les vaches, mais je n'aime pas le lait. L'un de mes pires souvenirs d'enfance est le lait obligé de Mendès France à l'école dans les années 50. Les moins de 60 ans ne peuvent pas comprendre, ça me soulevait le cœur comme la balançoire. Oh. Ah, les mugs. Quand j'entends le mot mug, se lève immédiatement le parfum d'un mauvais café à l'américaine, la lavasse versée au litre qui n'est autre chose qu'une purge buccale. Pitié. Attention, tante Léonie. Si vous me servez le thé de 5 heures dans un mug, je vous assassine dans mon livre. Attention, si vous voulez, à la fin du dîner, me faire avaler un tilleulement dans un mug, je ne reste pas dormir. Je vous préviens, si vous me présentez un mug au petit déjeuner, c'est la dernière fois que je couche avec vous. C'est compris ?
Il est d'une violence. Moi, je fais collection de mugs, Jacques. Oh, j'adore les
déception.
Mugs. Serge Joncourt, qu'est-ce que vous pensez des mugs, vous ?
Oui, oh, vous savez, moi, toutes ces attaques, toutes ces perfides remarques et allusions à propos de mon nom.
Ah, vous êtes mug vous-même ?
Moi-même, oui.
Enchanté.
Deux anses.
Oui. Non, puis un beau format, bien rond, bien toutes confortable. Ces...
Pardon.
Mais à peine.
33 centilitres. Toutes ces antipathies, plus ou moins déclarées, pour tout vous dire, je m'en balance.
Ah.
Ouais. De toute façon, quel crédit apporter au sens esthétique d'un homme qui n'aime pas les shorts ?
C'est vrai.
Cher objecteur, comment ne peut-on ne pas aimer les shorts ? À moins d'avoir quelque chose à cacher. Que voulez-vous, c'est comme ça. Telle ma vie, il y a des réticents, du fait sans doute de ma consonance. J'endure, j'encaisse les colibets, sans broncher. Pour dire vrai, ce genre d'inversion antipathique, j'y suis habitué. En général, ça commence dès le premier instant. Vous savez, quand on me découvre, là, en déballant le papier crépon. Mmh. Oh, un mug, quelle bonne idée. Faux cul, oui. Oui, ben, ce qu'il faut vous dire, c'est que le mug est la trouvaille parfaite comme idée cadeau. C'est vraiment l'idée cadeau de tout trouver en cela. C'est un progrès majeur de la civilisation. D'autant que le mug est sans doute le plus praticable des souvenirs de voyage et le plus durable. Offrez un mug et vous verrez, déjà, on ne vous dira jamais non, et à vie, on pensera à vous, chaque fois qu'on ouvrira le placard, justement. Or donc, dès le premier jour, dès qu'on me dispose en haut de l'étagère dans lequel le placard à vaisselle, j'entends les freluquettes verres à moutarde, ces pleureuses de flûte à champagne, toutes ces petites porcelaines à soutasse, fragiles comme des trois pommes. Vous savez comment on appelle ça déjà, le truc où on lappe le café, là,
les tasses.
Les tasses. Glorieuse appellation. Or donc, dès le premier jour, quand on me range dans le placard, je les entends toutes minauder les liquoreuses. « Attention, viens pas me choquer le cristal. Mets pas tes pieds sur ma soutasse. » C'est pire que de vouloir caser le pilier gauche du stade toulousain dans un ascenseur de maison de retraite. C'est comme ça, l'usage veut qu'un mug, ça se range dans un placard et en le tenant fermement par l'anse. C'est pratique d'ailleurs, vous voyez le geste. Hein. Un mug, ça ne se tient pas délicatement du bout des doigts comme un coquetier ou un baccarat, non. Un mug, ça se range virilement, d'un geste décisif, quitte à forcer un peu le passage pour faire de la place. Fêler un peu tous les vieux mazagrans, les soupirs de grand-mère, enfin bon. Le mug, c'est un peu le 4-4 de l'accessoire de table. Vous voyez, il faut que ça rentre.
C'est exactement ça.
On est d'accord. Hein. Mais c'est pour ça que je les aime. Hein. Ça rentre. Un mug, ça rentre. Et puis, vous avez déjà cassé un mug, vous ? Personne ici n'a...
Hein, non.
Alors qu'un verre, je suis sûr que... Combien de verres casse-t-on dans une vie ? Vaste question. Des mugs, jamais. Ou alors, il faut vraiment être très en colère. Ce que je ne suis pas. Mais bon, au-delà, pour appréhender un peu l'aspect humain de la chose, il faut le reconnaître, c'est chaleureux, un mug. C'est fiable, un mug. Ça vous lâche pas. C'est profondément humain, un mug. Tenez le soir, quand vous regardez la télé... Vous vous endormez sur un bon livre. Eh bien, il est là, le mug, près de vous, en bon toutou, à portée de main, et parfois même nonchalamment, sans s'en rendre compte, on s'y agrippe à son mug, on le tient inconsciemment, là, tout en regardant sa télé, on garde la main dans son anse, un peu comme un aviron dans son engougeure, on se raccroche au monde. Souvenez-vous, au temps lointain de l'enfance, dans les moments d'abandon du soir, quand la nuit enrobait d'ombre les reliefs adoucis par la neige.
Oh, c'est trop beau, c'est trop beau.
On tenait la main de maman.
Ah ouais.
Pour se rassurer. Mais plus tard, devenu grand, le soir, quand la solitude menace, et qu'immanquablement le monde s'est fait hostile, que maman n'est plus là pour éteindre, eh ben on se raccroche à quoi? Eh ben à son mug. Évidemment, on s'y réchauffe, on est moins seul. Mais bon, fit ses sensibleries, excusez-moi, pour élever le propos un petit peu jusqu'à l'encolure de l'universel, dites-vous bien qu'un mug, cher monsieur, au-delà de la rassurance domestique, c'est le monde à portée de la main. Oui, pour peu d'y perdre un peu son regard, ça sait distraire un mug, ça ferait même voyager. Je pense à tous ces mugs que j'ai croisés dans mon placard et qui venaient de Bavière, de Papouasie, du Mont-Saint-Michel. Des mugs avec des vues de port imprimées sur le fût, ou même des bords de l'eau, des cathédrales. Ça rentre sur un mug. Ben oui, il faut le dire, ça, ces choses-là. Et puis n'oubliez pas que souvent votre mug, il en a fait du chemin pour être là auprès de vous le soir. En dedans, à mesure que le niveau du thé baisse, ça fait remonter les beaux souvenirs. La croisière à Naples, la petite escale à Genova, ou la Valette, les vacances à La Ciotat, la virée au Mont-Saint-Michel. Et oui, ça va loin, un mug. Ça va si loin, un mug. Ça va si loin, un mug.
Oui.
Ça va loin, un mug. Mais attention, en soulevant l'aspect exotique du mug et de tous ceux qui vous les rapportent, je ne voudrais pas me limiter aux voyageurs long courrier qui s'échélisent. Les aéroportés hypercarbone qui ont le portefeuille débordant de miles. Non, ceux-là, ils ne m'intéressent pas. Non, je préfère ceux qui ont le réflexe les excursionnistes qui s'arrêtent dans les boutiques souvenirs. Les randonneurs de bout de chemin, les excursionnistes de pas loin, les aventuriers des routes de repos, les caravanistes, les campeurs, les touristes à la petite semaine, quoi. Il y a encore une semaine, ça fait beaucoup. Non. Moi, le mug, je sais qu'il touche, je sais toucher les âmes d'enfants, les rêveurs faciles qui s'élancent dans les magasins souvenirs comme des mômes se jettent sous les branches du sapin de Noël. Parce que là, dans ces échoppes surchargées où tout est à moins de 10 euros, alors bien sûr, il y a les foulards et les monuments miniatures. Il y a les cuillères à cousson, les boules à neige avec le puits de Sancy dedans, mais bon, tout ça, c'est des gadgets, aucune utilité dans le fond. Alors qu'un mug, ça se ramène fièrement et ça supporte allègrement le voyage du retour. Dans la valise, dans le coffre, ça, des heures de train sans fêlure. Ni état d'âme. Et bien des années après, une fois le voyage totalement oublié, c'est toujours là le mug à vous parler du pays. Même 15 ans après Corfou, il vous montre encore l'église de la petite île de la souris, là, celle où vous avez brûlé un cierge. Mm-hmm. Et 15 ans après, le cierge...
Il n'est plus là.
Eh oui, non. Alors que le mug...
Il est là.
Pardon. Enfin bon, pardon, je déborde, je me laisse aller, c'est tout le problème des grands contenants. On se rend jamais compte de ce qu'il y a dedans. Enfin, j'aimerais juste vous dire à toutes ces soutases et ces vaisselles du bout des doigts que le mug, c'est le roi du temps. C'est l'instrument de l'intemporel. C'est le godet qui sert à écoper la mémoire. D'un geste, rien qu'en le regardant, comme ça, en plein cœur de l'hiver, suffit de remplir son mug d'un bon Earl Grey bouillant, d'un Darjeeling, ou même d'une ricorée gonflée au whisky. Et ben, en échange de quoi, non seulement il vous réchauffera le cœur, mais il vous fera revenir vos plus beaux étés. Sur ce, je me tasse.
Vous voyez, Jacques, je vois à quel point vous êtes injuste avec le mug.
Mais je trouve qu'il est très accablant pour le mug.
Ah oui.
Oh,
mais moi, il m'a arraché des larmes, le petit mug.
Il n'a pas de cœur.
Et nous, on va jouer à autre chose. Alors, dans le genre rhétorique et souterrain, dans le genre vie du rail, ou plutôt vie d'une rame, de métro, un discours par Lucas Fourny. On fréquente tous le métro. Je suppose que vous êtes venus ce matin en métro, comme nous, enfin, comme la plupart d'entre nous. Lucas Fourny est très souvent dans le métro. Il pratique toujours la même ligne, un petit peu comme nous tous, d'ailleurs. Et voilà, comme c'est quelqu'un de sympathique, il aime aborder les gens, leur parler, les saluer, les regarder, les appréhender. Vous avez des choses à leur dire.
Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger. J'ai quelque chose à vous dire. Mesdames, messieurs, chers compagnons, chers tous, Dans quelques instants, la force du destin va nous séparer. Dans quelques instants, l'intimité qui nous unissait pour certains depuis le tout début de cette expédition va se dissiper à jamais. Aussi, le moment est-il venu d'exprimer ici ma gratitude à l'endroit de celui sans qui rien n'aurait été possible, ni notre rencontre, ni notre aventure. Je veux parler, bien sûr, de ce Breton taciturne, dernier rejeton d'une famille de 13, dont la devise était « Jovis erepto fulmine per inferna veitur Prometei genus » par la foudre ravie à Jupiter, la race de Prométhée est transportée dans les profondeurs. Oui, nous sommes de la race de Prométhée transportée dans les profondeurs. Grâce à vous, l'inspecteur général des ponts et chaussées, Fulgence, bienvenue, qui sut conduire tel un mécano de la générale, le projet le plus grandiose de l'exposition universelle de 1889, le métropolitain parisien. Sans vous, Fulgence, bienvenue, je ne serais pas monté tout à l'heure à la station Mairie de Montreuil. Sans vous, nous ne serions pas embarqués sous la terre de France, dans le ventre de Paris, passagers pour certains clandestins dans la rame électrique de la ligne numéro 9.
On dirait André Malraux.
Et Fulgence, bienvenue. Vous qui êtes aujourd'hui sous terre, je voulais, au nom de tous mes compagnons de voyage, eux aussi embarqués pour sous terre, vous rendre hommage. Mais, mesdames, messieurs, chers compagnons, usagers, chers tous, il est aussi un être auquel nous devons beaucoup. Un obscur, un sans grade, un travailleur souterrain qui, depuis plus de 20 stations, tel Jean Gabin dans la bête humaine, conduit d'une main de fer cette folie de machine, comme disait le poète. Ô toi, pilote audacieux du métro, tu as, comme tes frères de la RATP, recueilli pour instant chacune de nos existences. Ces âmes vivantes sont les tiennes. Ô Charon de ce siècle qui passe sous les Champs-Élysées à la station Franklin des Roosevelt, dans le fracas des machines et le crissement des rails, entendras-tu ce message d'amitié et de reconnaissance ? Oh, je sais bien que les cœurs à l'unisson des passagers de la rame seront portés jusqu'à l'avant, vers ta cabine calfeutrait le souffle ardent de notre admirative gratitude. Mesdames, messieurs, chers compagnons usagers, chers tous, au moment de partir, c'est vers les plus anciens que je veux me tourner. Nous partîmes 50 à Mairie de Montreuil et nous nous vîmes 3 en arrivant à Pompe. L'un nous a quittés à Station rue des Boulets, d'autres à République ou à Saint-Augustin. Entre les quartiers prolétaires où nous montâmes à bord et les quartiers huppés que nous traversons à l'instant, certains nous ont rejoints, bien sûr, à chaque arrêt pour maintenir vivante et vibrante notre communauté ferroviaire. Mais c'est à vous deux, les deux premiers rescapés, les deux pionniers montés avec moi à Mairie de Montreuil, que je veux saluer. Oui, toi, le grand garçon de la génération Y, dont le corps musculeux courant sous la peau d'ébène et que je devinais sous ton sweat noir. Ce corps qui eût ému Cocteau et dont une trépidation de notre wagon m'a fait dans la bousculade de la montée à la station Strasbourg-Saint-Denis sentir la fermeté virile. Ah, tout autre que moi eût perdu la tête à Saint-Denis. Et puis, il y a vous, mademoiselle, assise pleine de grâce sur le strapontin, n'ayant pas une seconde levé les yeux de votre livre La Vérité sur l'affaire Harry Potter, pardon, Kébert, Harry Kébert de Joël Dicker, ce livre dont un tableau de Hopper en couverture attise le mystère, ce livre qui vous a fait ignorer ma présence un peu fauve près de vous, ce livre que le frôlement de vos cheveux par ma main faussement maladroite tentant d'agripper le dossier métallique n'a pas réussi à vous faire lâcher. Fugitive beauté dont le regard m'eût fait soudainement renaître, mais j'ignore où tu fuis, vers Michel-Ange Auteuil ou Michel-Ange Molitor. Ah, heureux Michel-Ange. Mesdames, messieurs, chers compagnons, usagers, chers tous, au moment de partir, je voulais vous dire que j'ai été heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec vous. Le musicien serbe venu jouer pour nous, perle de cristal,
La poussette double de deux jumeaux philippins qui nous a écrasé les pieds, le ronflement du barbu affalé contre la vitre, les encombrants touristes italiens bivouaquant entre les sièges avec leurs sacs à dos, le lecteur, oui, vous, monsieur, qui tentez depuis 5 stations de lire par-dessus mon épaule la page football de mon journal L'Équipe, et vous, jeune fille, dont je n'ai pas loupé la correspondance, le regard posé sur votre smartphone où vous pianotez des textos amoureux pleins de fautes d'orthographe. Nous avons ensemble, parfois intimement serrés, surfé sur les mêmes vagues mécaniques, tentant de ne pas perdre l'équilibre sans tenir la rampe. Nous avons ensemble partagé des parfums corrompus, riches et triomphants, qui chantent, comme dit le poète, le transport de l'esprit et des sens. Mesdames, messieurs, chers compagnons, chers usagers, chers tous, j'en ai déjà trop dit. Vos visages consternés qui fuient mon regard semblent me dire « Ne pars pas, reste encore un peu, ne nous quitte pas ». Pourtant, je le dois. Ne soyez pas triste. Soyez fort dans vos têtes. Avec ou sans passe Navigo, nous serons un autre jour des Homères nouveaux. Merci pour tout. Merci d'avoir été authentique dans ce que l'humain a de plus riche et de plus sordide. Mais voici ma station. Bientôt, ma voix sera recouverte par le tumulte des wagons dans le tunnel. Je me tais. Voici la muette. Mademoiselle, sur le strapontin, mademoiselle. Bon, au fait, mademoiselle, l'assassin dans l'affaire Harry Kébert, eh ben, c'est le flic. Salut.
On aimerait bien avoir Lucas Fournier dans son compartiment, hein. Ah, ça changerait. Gérard Mandilla, vous êtes le conducteur du métro.
Ah, voilà.
Le Jean Gabin.
Eh oui. Et voilà, encore un grincheux qui vient de m'apostropher à propos de je ne sais quelle cloche qui déblatère dans un wagon. Je l'ai envoyé promener. Il n'y a pas de wagon dans ma rame, que des voitures. Est-ce que vous avez déjà entendu un chef de train crier « En wagon !» C'est pourtant pas difficile de se souvenir. Comme dit un collègue, les wagons sont pour les bestiaux, les voitures pour les animaux. Ça nous fait toujours rire. C'est vrai que les voyageurs sont des animaux, des sardines le matin entre 7 et 9 et le soir des chiens errants à partir de 23 heures. Forcément, je ne conduis pas de la même façon selon l'heure. Le matin, j'accélère à fond et je freine brusquement. Ça les tasse. Comme ça, je peux en charger un max à la station et respecter les consignes de la direction qui exigent un remplissage maximum des rames. Le soir, au contraire, j'avance tout doux, presque sur la pointe des roues, pour ne pas réveiller les dormeurs et m'offrir une belle tranche de rigolade quand ils se réveillent au dépôt. Alors, j'ai des petits plaisirs parce que depuis qu'on a la sono embarquée, j'adore faire des annonces au micro. Quand on arrive à Voltaire, par exemple, j'y vais de mon couplet. Voltaire, Léon Blum, c'est le chéri de cette rame. Voltaire, Léon Blum, c'est ici, messieurs, mesdames. Et puis, un peu plus loin, j'entonne. Dis, quand descendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que la station Ranelagh est fermée, pas de blague. Ça plaît. Pour les annonces, je fais aussi des variations poétiques. Je ne dis pas « Merci de bien vouloir patienter quelques instants pour régulation ». Non, j'annonce « Salut les impatients, on est à quai pour un moment, pas question de quitter la station, on zone pour régulation ». Et en cas de malaise d'un usager, « Pas de chance, ça me fait mal au cœur, n'espérez plus arriver à l'heure ». Pour un renvoi de croissant-beurre, on s'offre un accident de voyageur. Faut bien se distraire, parce qu'on a parlé de la solitude du coureur de fond. Mais qui s'intéresse à la solitude du coureur au fond? Et pour être au fond, je suis au fond, avec pour seule consolation de voir le bout du tunnel, comme seuls les politiques et moi le voient. Même si mon chef a raison, il y a bout, et tunnel, comme un film à la télé l'a bien montré. Mais là, maintenant, J'ai la rame. J'ai la flemme. J'ai un coup de pompe rue de la pompe. Ça m'ennuie de m'arrêter à la prochaine station et à toutes les suivantes. Pourquoi s'arrêter ? Parce qu'il faut s'arrêter. Moi, rien ne m'arrête, rien ne doit m'arrêter. J'ai envie d'aller plus loin que le terminus qui me rend neurasthénique. Au bout du tunnel, je sais qu'il y a la mer, la lumière, le vent. Alors oui, je vais prendre mon élan, bloquer l'accélérateur, et du pont de Sèvres faisant table rase, je vais filer sans me retourner. Comme je l'ai vu tagué à la station Jasmin, le Homer des prolétaires, seuls sont les indomptés. Oh.
Vous êtes qui dans la rame, Dominique Muller et Gabriel ? Racontez-nous un petit peu, Dominique.
Alors moi, je suis deux. Je suis les bébés philippins. Je suis le cœur, en fait, parce que Gabriel va chanter la chanson du métro, mais avec toutes ses stations, opéra, opéra Bastille. Je trouvais que c'était normal qu'il y ait un cœur en introduction. Donc je suis les deux bébés et en conclusion aussi.
Ah, très bien. Et vous, Gabrielle, vous allez chanter sur quel air ?
Sur l'air de « Il jouait du piano debout » et moi, je suis la mademoiselle qui n'écoute rien sur le strapontin.
D'accord. Ça, ce sera la note pour Gabrielle.
Moi, je n'ai pas du tout besoin
vous
de...
Vous n'avez pas besoin de note.
Ouais, y a, oh là, aucune importance. Si on bavait sur elle, tellement qu'elle est belle, les bébés dans leur poussette rêvent à la lectrice muette, de cris on lance sur celle, va roule-nous une pelle.
À moi les strapontins, la RATP, dans les rames du métro, faut le chignon scrépé. Y a des types au regard étrange, tu veux ma photo pépé, ça me dérange. Né dans mon bouquin, je louche sur un ingénu. Qui dit se nommer Fulgence, bienvenue. Il y a deux bébés dans leur longe qui pleurnichent dans leur poussette. Ça me dérange, ça me dérange. J'y peux rien si vous êtes debout. Arrêtez de me donner des coups. Tout ça parce que vous êtes jaloux de moi, plus chic que les trois grâces. Tiens, je vais vous montrer mes genoux. J'y peux rien si vous êtes debout. Sur la neuf, il y a un monde fou. La fille tape en bisou, bisou. Elle n'a qu'à lever ses fesses au lieu d'envoyer tous ses SMS. Par Jupiter, c'est l'arrêt dans les profondeurs. Et ces bébés qui dégagent une drôle d'odeur. Faudrait que leur mère les change ou font repart dans le noir vers Michel-Ange. Et les sacs à dos qui va san, on va piano. D'autres que moi deviendraient parano. Quand l'accordéon pleurniche et que me lèche un caniche, un caniche. J'y peux rien si vous êtes debout, de Montreuil à Porte de Saint-Cloud, même assise le wagon secoue. J'aimerais que le musclé coriace ose me donner rendez-vous. J'y peux rien si vous êtes debout, prends un siège, sinoc et c'est tout. Ce Fulgence me tâte le cou, on est trois et il m'oppresse. Que ce malvenu vite disparaisse. Enfin seul, je fais les yeux doux au bodybuildé à cajou. Et si je restais jusqu'au bout, pour qu'au pont de Sèvres il m'embrasse, il serait temps que je trouve un époux. Les bébés, n'est-ce pas, dans les choux. Mais voilà la porte de Saint-Cloud. Je sais que mes rêves à trois sous ne tiennent pas leurs promesses. Le métro, c'est pour les frôleurs express.
Maman nous a plaqués au milieu du quai. Nous les bébés en poussette, on sait bien qu'à la muette, si ses nerfs ont lâché, c'est rien que du chiquet.
Des papous dans la tête en public au Théâtre du Rond-Point. Vous avez dit mauvais genre. Je vous convie maintenant à un instant érotique. Ce sera le moment le plus érotique pour nous de la journée. Enfin, pour vous, je ne sais pas.
Non. Et d'ailleurs, pas du tout pour vous, oui.
Pour l'ensemble, je ne sais pas non plus. Mais ici, sur scène, c'est certain. Voilà. Il s'agit du jeu expert contre faussaire. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Nous nous sommes réunis il y a quelques jours. Jean-Bernard Pouy était le maître du jeu. Il avait choisi un certain roman érotique qu'il nous a raconté un petit peu. Enfin, qu'il nous a raconté, pas à tout le monde, parce que Hervé Le Tellier et Serge Joncourt n'étaient pas avec nous et ils seront experts aujourd'hui. Donc, il l'a raconté à Dominique Muller, à Gérard Mordilla, à Lucas Fournier et à moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que Jean-Bernard Pouy leur a raconté le roman et situé le début et la fin? Eh bien, ils ont pris une feuille de papier chacun et ils ont écrit ce qu'ils pensaient être le début et la fin de ce roman érotique. J'ai ramassé les copies, elles sont ici. J'ai pris également le vrai texte de l'auteur en jeu et nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agira... Pour les experts, c'est un tandem qui a fait ses preuves, mais pas toujours en réussissant d'ailleurs. Seulement, ils sont tout à fait sympathiques. Et ça, c'est important, donc le tandem. Serge Joncourt-Hervé Le Tellier expertisera ses textes et devra avant tout retrouver le vrai parmi les faux et puis ensuite tenter d'attribuer à chacun ce qu'il a écrit. Alors maintenant, pour que nous soyons tous sur un pied d'égalité, Jean-Bernard Pouy va nous parler de l'œuvre en jeu.
Alors, il s'agit d'une nouvelle, Hilda et Rango, d'Anaïs Nin, publiée dans un recueil intitulé « Les petits oiseaux », qui est d'ailleurs la suite de son recueil le plus célèbre, qui s'appelle « Vénus érotica ». Anaïs Nin, de son vrai nom, Angela, Anaïs, Juana, Antoline, Rosa, Edelmira, Nin ou Ikulmel.
Ouais.
Donc je comprends qu'elle a un raccourci après. Née, oui, à Neuilly, en 1903, et morte à Los Angeles en 1977. Une mère danoise, un père cubain absent très tôt, donc elle voyage assez vite, et notamment à New York où elle devient mannequin. Mariée à un banquier, elle débarque à Paris en 1923, où elle rencontre, quelques années plus tard, Henri Miller. Tout le monde connaît la relation, surtout épistolaire, entre les deux. Elle se lance alors dans l'écriture, et repart en Californie, épouse un certain Rupert Cole et devient l'amie, la confidente et souvent la maîtresse de Pékins comme Antonin Artaud, Henri Miller, Edmund Wilson, Gore Vidal, James Agee, Laurence Durrell.
Du beau monde.
Ouais, ouais. Mmh. Alors elle est devenue bien sûr célèbre pour ses journaux intimes et secrets, ayant commencé dès l'âge de 11 ans en écrivant des lettres à son père absent. Et célèbre plus encore pour ses œuvres dites érotiques, qu'elle a écrites pour des raisons d'ailleurs bassement financières. Elle avait plus un rond et on lui payait assez grassement ses petites nouvelles olé olé dès 1940, qui ont été retenues donc dans Vénus érotica et la suite des petits oiseaux. Bon, c'est pas la première, mais c'est une des premières femmes à proposer des scènes réellement explicites quand même et à parler notamment de bisexualité féminine. Alors, Hilda et Rango racontent la vie d'une jeune femme avec un homme qu'elle aime, mais qui est plutôt passif, parce qu'elle le domine et qu'elle le manipule. Jusqu'au moment où elle rencontre Rango, un artiste mexicain du genre macho et brutal, avec qui, enfin, elle trouve une sorte de plénitude.
Vous avez l'air ravi. Il doit être très bien, ce livre. Hein. Et c'est pas Rambo, c'est Rango, on est d'accord, hein.
Rango, avec un G. Mais je me demande... Enfin, bref.
Ouais.
Donc, le début, c'est une phrase, 4-5 lignes, présentant la dénommée Hilda, modèle, tombant obligatoirement amoureuse. Obligatoirement amoureuse. Mm-hmm. Texte, là, sage, retenu, et même légèrement distant.
Ouais.
Et la fin, une phrase, pareil, 5-6 lignes, un peu plus long, enfin, à peine. Alors là, très explicite. Sur un acte sexuel où le mâle parvient à la domination tant attendue et désirée sur sa partenaire.
Bon, c'est...
Calmez-vous.
Moi, je suis un peu ému, mais... C'est un peu troublant, tout ça.
Oui, parce que lui, il connaît l'œuvre. Hein. Alors, des questions, peut-être pas, d'ailleurs. Est-ce qu'on autorise des questions à Serge Joncourt, Hervé Le Tellier? Les pasticheurs n'en ont pas posé, à vrai dire.
Ah ben, c'est très étonnant. Ils n'ont posé aucune question.
Oui, juste une.
Donc ils savent ce que c'est que la domination tant attendue, tous.
Alors, je pense qu'il ne faut pas répondre à cette question, Jean-Bernard Pouy, je ne sais pas ce que... Hein?
Non, j'étais juste perplexe quant à la nuance entre la bisexualité féminine et la bisexualité masculine. Mais enfin,
Oui, mais enfin, il...
Ouais. Plus tard, on verra demain.
On verra plus tard, oui. Alors, j'ai en main les pastiches, donc, le texte de Dominique Muller, celui de Gérard Mandilla, celui de Lucas Fournier et celui d'Anaïs Nin. Je mélange les yeux fermés et on va tous prendre un exemplaire pour lecture. Un pour Gérard Mandilla, un pour Dominique Muller, un pour Lucas Fournier. Et ben, je garde celui que j'ai en main. Alors, on prend connaissance un tout petit peu de ce qu'on va lire pour le lire bien. Évidemment, vous pouvez parler entre vous pendant ce temps. Racontez-vous des histoires. Je vous demanderai votre avis aussi hein, dans la salle. Il s'agira pour vous d'identifier Anaïs Nin. D'accord ? Oh là ! Il n'y a pas beaucoup de candidats pour jouer. Vous ne voulez pas jouer ? Vous n'êtes pas réveillé ? Si, bon, très bien. C'est bon ? On est prêt ? Cachez votre texte, Gérard Mandilla. Oh là là, malheureux. Serge Joncourt est tout prêt.
Il va le lire, donc...
Voilà. Alors, vous êtes prêts ? On va commencer par le texte qui est dans les mains de Gérard Mandilla. De qui est-il ? C'est la question. Vous aurez deux tours pour vous faire une idée, Gérard.
Début. Dès qu'elle avait commencé son métier de mannequin, Hilda avait découvert qu'il était encore plus facile de tomber amoureuse de toutes sortes d'hommes et de s'en faire aimer que de se laisser prendre par l'objectif du photographe. Fin. Réfléchissez bien, ça. Prêt?
Ben, vous trouvez ce texte drôle, ça?
Alors, je ne pas. Oui, se faire... Oui, non, rien, non.
Attendez la fin.
Oui, d'accord.
Vas-y. Ouais.
Alors, sans un mot, Rango la retourna d'un coup de patte et elle ne sentit plus le sexe de l'homme entre ses lèvres rassasiées, mais la brûlure soudaine d'un châtiment qui infusait son venin entre ses fesses.
Voilà. C'est érotique. Enfin, bon... Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à part sourire, Hervé Le Tellier, Serge Joncourt ?
Déjà, dire que c'est pas Anaïs Nin, ça c'est sûr.
Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas une femme qui écrit ça ?
Ah, ça, alors là, c'est, vous savez, là. Alors là
ah, bah oui, c'est un vaste débat, je sais. Ouais.
Vaste débat, sexualiser
ouais,
les textes.
Ouais, ouais.
Non, c'est quelqu'un de très malin qui a beaucoup, beaucoup d'humour. Je dis non pas qu'Anaïs Nin ne le soit pas, mais enfin, je sais pas si le propos d'Anaïs Nin, là, c'était de faire cette sorte de jeu de mots. Se faire prendre par un photographe ou se faire prendre... Enfin bon...
Ah, vous avez
oui,
pensé
là, mais
à
oui,
ça,
mais c'est ça, vous n'aviez pas compris.
Ah ben, non,
oui,
je n'avais pas, pas compris, non.
Oui, oui.
Non,
oui
non.
Parce que, bon... Et ça, donc, c'est un esprit... C'est un esprit supérieur qui a écrit ça.
Ah oui.
Quant alors, à la fin, donc, je, de mémoire, donc...
De mémoire.
De mémoire. Parce que les images se chevauchent,
ben, oui.
Mais... Si j'ai bien compris, il y a une patte qui traîne. C'est curieux bonhomme, quand même. Hein. Ça doit être un costaud. Ça me semble un peu bricolé à la va-vite, ça.
Ah oui, j'en ai une demi-heure, hein, les pastiches.
Oui, oui.
Ah bah oui.
Anaïs Nin avait plus de temps. Oui.
C'est vrai. Première impression, Hervé Le Tellier.
Non, le début est bien fade, comme on nous a dit. Hein. Donc, ouais. Voilà. C'est distant, on ne peut pas dire. C'est distant. Hein, ça doit être pris à 3-4 mètres, sans, à peu près. J'aime bien le venin entre ses fesses à la fin. C'est bien ça, la phrase exacte ?
Oui, oui.
Ah oui. Bah, c'est très intéressant de relier directement ça au serpent. Bon, pourquoi pas. J'ai du mal à visualiser la scène, bizarrement. Je pense qu'on va nous la relire, donc j'aurai plus de facilité. Mais bon, je vois bien qu'il y a un retournement, une patte et du venin. Pour l'instant, je dirais que ça n'est pas Anaïs Nin.
Mmh.
Voilà, et puis, comme on dit, je me réserve. Hein. Voilà.
Ça.
Sens, ça d'accord. Analysis interruptus.
D'accord. Donc, pour le moment, vous n'êtes pas en faveur d'Anaïs Nin
non,
pour
non,
cette
non,
lecture.
Non, 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 pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
Deuxième lecture proposée par Dominique Muller.
Alors, ça commence comme ça. Hilda fit voler la veste de son tailleur et laissa tomber sa jupe à ses pieds, s'observant avec plaisir dans le grand miroir de la chambre, tandis qu'elle se déshabillait tout entière. Et la fin, sitôt qu'Hilda entra dans la chambre, Rango l'attira contre lui et, la saisissant par les cheveux, la força à s'agenouiller devant lui, tandis qu'elle gémissait, réclamant sa récompense.
C'est pas mal, non ? Enfin, je sais pas. Enfin, on voit la scène, en tout cas.
Oui.
Le problème de visualisation d'Hervé ne se pose
pas, non, là. Non, je pense à la phrase de Barthes disant que la sexualité est terriblement répétitive et ennuyeuse et que inversement proportionnelle au plaisir qu'elle procure.
Pardon, il y a une question qui se pose tout de suite, c'est savoir si la dernière scène a lieu dans la même pièce que la première.
Ça n'est pas précis.
Auquel cas, il y aurait donc le miroir.
Ah, en plus, oui.
D'autant plus pervers. Ouais. Alors, effectivement, c'est un texte écrit par une femme. Alors,
pourquoi
Eh bien, il y a cette sorte de distance un peu prudente, parce que vous savez, l'exercice du faussaire... Bon, alors, vous êtes là, sûrement vous l'avez fait l'après-midi, je ne sais pas.
Oui, c'est vrai.
Après le déjeuner...
Entre 5 et 7.
Dans un taux d'iminable. Non. Vous voyez, ça manque de corps.
C'est un peu glacé.
Donc là, je sens comme une sorte de réserve de prudence presque féminine. C'est-à-dire, bon, mais il est un peu trop tôt. Quoi. Alors que l'homme Goujat se jetterait dans ce texte, le faussaire, sans pudeur. Allons-y. Et puis, il y a quelque chose qui me manque, c'est le... dans le cahier des charges, entre guillemets, enfin des charges, si je peux exprimer cette expression...
Elle est très bien.
Oui, carton.
Comme ça, je la note.
Non, un point important et technique, excusez-moi, je suis expert, enfin j'essaye de l'être. Il était dit qu'elle tombait amoureuse obligatoirement dans la première scène. Or, ce que je vois là, c'est une sorte d'autocontemplation ravie. Et seule une femme peut se contempler avec ravissement dans un miroir parce qu'elles sont belles, alors que les hommes, c'est toujours désolant. Et...
Bon, c'est un point de vue, Hervé Le Tellier.
Non, je pense qu'on va en apprendre énormément, en fait, sur les experts. Sur les experts. Oui,
sur
aussi.
Les faussaires.
Aussi sur, les experts, sur les faussaires. On va aussi en apprendre. On va en apprendre sur tout le monde. Et peut-être même sur le public. Alors méfiez-vous. Non, je trouve que ça manque d'organes à la fin. Voilà, que c'est pas si explicite que ça, c'est assez suggestif. Donc, dans le premier cas, on voit bien qu'il y a une sodomie, dans le deuxième cas, il y a une fellation. Donc, c'est très intéressant du point de vue de l'imaginaire des faussaires. Donc, la domination tant attendue et l'explicite va être... Mais je trouve que ça manque vraiment d'organes, de corps. Je suis d'accord avec mon camarade Serge. C'est pas très précis, finalement, au niveau... corporel, physique.
Ça reste très allusif,
tout ça. Ouais. On sent le faussaire qui n'ose pas trop se dévoiler. Ouais. Voilà.
On va voir, troisième texte proposé, lu par Lucas Fournier.
Le début. Hilda était un magnifique modèle parisien qui tomba follement amoureuse d'un écrivain américain dont les œuvres révélaient une telle violence sensuelle que toutes les femmes étaient aussitôt séduites.
Oui. Et c'est les digérer. Serge a l'air d'approuver.
Tout y est, là.
Et la fin. Tel un démon penché sur elle, les cheveux en bataille, ses yeux brûlants plongeant dans les siens, sa verge puissante martelant son sexe, le sexe de cette femme dont il avait d'abord exigé la soumission à son désir, à son heure.
C'est mieux. Il y a une sorte de naïveté d'abord, d'exposition au début qu'aucun faussaire n'aurait osé avoir. Je trouve que c'est exactement ce qu'a dit Jean-Bernard. Donc je pense qu'aucun faussaire n'aurait osé avoir la flemme de reprendre intégralement ce que dit Jean-Bernard. Et je pense que Jean-Bernard, lui, a la flemme de faire autre chose que ce qui a été dit dans les trois premières lignes. Donc ça semble plausible qu'effectivement, on ait une sorte de distance comme ça, d'explicitation, ça pourrait être du anesnil. Et à la fin, oui, alors là, il y a du corps, il y a de l'organe. Voilà, je suis un petit peu déçu par Verge, mais bon.
Bah, il me semble qu'elle était aussi dans le texte lu par Gérard Mordillac.
Bah oui, on l'a moins vue. Elle était plus petite, elle était moins visible, là, t'es d'accord. Je l'ai moins senti.
Elle était moins apparente. Non, là, on dit oui.
Serge,
oui, non, bah écoutez, on va pas... Effectivement, c'est Anaïs Nin, sans aucun doute.
Ah bon ? Ah oui, oui, vous aussi.
Oui, parce qu'elle n'hésite pas. Bon, alors évidemment, on connaît tous son histoire. Alors, elle n'hésite pas à aller piocher dans sa vie privée ses propres fantasmes, parce qu'il faut dire que il faut dire une chose, les écrivains l'excitaient, quoi. Bon, ben voilà, il y en a, c'est les garagistes, y a, c'est, les plombiers, que sais-je. Enfin bon, chacun son imaginaire. Donc elle y va cash. Elle n'a pas à se poser la question de savoir si 40 ans après, on va essayer de faire un exercice de ce genre autour de son texte. Donc, bon,
elle ne peut pas savoir. Bah non, elle ne peut pas savoir.
C'est brutal. Et puis alors, à la fin, là, le sexe, la verge qui martèle son sexe, on sent qu'il s'en est passé avant, quoi. Enfin, c'est-à-dire, elle a décomplexé l'affaire, quoi. Hein.
Ah ouais, elle y va, c'est pas la première fois avec
lui.
Oui,
ça pilonne, on y est, là.
C'est un peu cliché, hein, mais enfin, ça va être difficile de parler du cliché dans du texte sexuel.
Oui, mais c'est qu'on vous a dit, on nous l'a dit, elle faisait ça parce qu'elle avait besoin d'argent.
Voilà, c'est ça. On sent le besoin d'argent, là. Hein. On sent nettement. Hein.
Alors que nos faussaires roulent sur l'or.
Ils s'en foutent. Peut-être que je me repasse un message.
Alors, je vous lis le quatrième texte, le début. Il faisait une chaleur à rendre fou. Dans les cabines, dans les salons, dans les rues de Manhattan, partout. De sorte qu'Hilda n'eut que rarement le goût de tomber amoureuse cet été-là. La fin ?
Oui. Hein.
Pourquoi ça vous plaît pas ?
Si, c'est bien. Il n'y a absolument rien de ce qui nous a été indiqué dans le début. Hein. On n'a pas vu Hilda, d'ailleurs. Il y a Hilda ? T'as vu Hilda ?
Oui, je l'ai vu passer, mais il est tellement chaud.
Juste devant. Il faisait chaud, oui.
C'était la première fois, et ce serait peut-être la dernière, qu'elle éprouvait ce sentiment d'orgueil et de puissance à n'être personne, absolument personne, soumise à la parfaite indifférence de ce corps, à l'exquise mécanique du pur mouvement.
Le mouvement y est.
Il n'y a pas les termes techniques.
Les accessoires, non, ils sont... C'est un peu intellectuel, là. Hein. On n'est pas dans le corporel, là. On est...
C'est pas mal.
Alors,
textuellement,
chose,
c'est bien.
Oui, textuellement, on y est. Mais
c'est de la belle écriture.
Sexuellement, on n'y est pas. Oui, c'est...
D'accord.
Il y a le texte, mais pas le sexe. Mais mes chapeaux à celui qui a fait ça. Hein, parce que c'est...
Et ce serait qui ?
Ça serait...
Ah oui, c'est la question, ce serait qui ?
Déjà ?
Non, vous allez avoir un deuxième tour. Non,
mais... Alors, évidemment, il y a une deuxième hypothèse. C'est qu'effectivement, alors là, pour le coup, c'est Jean-Bernard qui aurait mal résumé, en fait, la première ligne. et qui aurait, en fait, résumé le début, mais pas les cinq premières lignes. Et là, à ce moment-là, ça serait du Anaïs Nin. Voilà. Et puis, l'acte sexuel serait avant, et la psychologie serait dans ces quatre dernières lignes. Avec la domination tant attendue, etc., etc., etc. Ça serait aussi une possibilité qui
c'est
n'est pas
bête,
tout
ce que vous
à
dites.
Fait non envisageable. Bon, faut quand même considérer qu'une nouvelle n'est pas constituée de 5 lignes au début et de 5 lignes à la fin. Donc, il y a peut-être un petit peu avant, un petit peu après.
Oui, mais enfin, reconnaissez que dès lors, on serait dans le cadre d'une sorte de texte sans queue ni tête.
Venez.
Non, ça, c'est un faussaire qui a tout misé sur sa semence littéraire, sa force, sa vigueur, hein, mais qui a retenu du côté par pudeur. Je le comprends, je le remercie.
Allez, deuxième tour, on relit les textes et cette fois-ci, il faut se décider à chaque lecture.
Ça y est, là, c'est clair, en fait.
Ouais. Gérard Mordi. Il
faut aboutir.
Pour conclure. Ouais. Oui, conclure.
Dès qu'elle avait commencé son métier de mannequin, Hilda avait découvert qu'il était encore plus facile de tomber amoureuse de toutes sortes d'hommes et de s'en faire aimer que de se laisser prendre par l'objectif du photographe. Et la fin ? Alors, sans un mot, Rango la retourna d'un coup de patte et elle ne sentit plus le sexe de l'homme entre ses lèvres, rassasiée, mais la brûlure soudaine d'un châtiment qui infusait son venin entre ses fesses.
Le châtiment.
Alors...
Le châtiment, le venin. C'est oh là du Gérard est là. Enfin, Gérard transpire. Il y a même l'objectif. Oui, c'est du Mordi à tout cracher. Si j'en dis. Il y a même la question d'objectif, savoir dans quel angle il est. Il y a même ce regard.
Plan général. Traveling.
Très large.
Recule, petit coco, oui, voilà. Mais lui, ton venin entre ses fesses, voilà, c'est bon. Je suis d'accord.
Coupé, voilà.
C'est pas coupé. Scène suivante.
Nous avons deux Gérard. Qu'est-ce que vous pensez dans la salle? Ce serait du Gérard Mordilla? Ah, vous êtes d'accord avec eux? Non? On va voir la suite. Lecture suivante, Dominique Muller.
Hilda fit voler la veste de son tailleur et laissa tomber sa jupe à ses pieds, s'observant avec plaisir dans le grand miroir de la chambre, tandis qu'elle se déshabillait tout entière.
Bon, Dominique, tu peux nous montrer comment tu es habillée aujourd'hui? Ouais.
Sitôt qu'Hilda entra dans la chambre, Rongo la tira contre lui et, la saisissant par les cheveux, la força à s'agenouiller devant lui, tandis qu'elle gémissait, réclamant sa récompense. Alors,
c'est presque gênant.
Ah non. Vas-y toi. Oui. Non, moi,
non,
je peux pas.
Alors,
non, vas-y.
Dominique, non, on t'a reconnu. Tu peux rallumer la lumière. Oui, non, c'est gênant.
Non,
hein.
C'est embarrassant. Bon. Non,
on peut aller au troisième.
Non, on peut au troisième.
Vous pensez que le hasard aurait distribué à chacun son propre texte?
Non, le hasard fait tout ce qu'il peut. Hein. Oui. Non, vers la fin, il y a peut-être un basculement.
Dans la salle, vous pensez que le texte que Dominique Muller vient de lire est d'elle? Alors, ceux qui pensent non pensent à qui? Nous avons un peu de Lucas, un peu d'Anaïs Nin? Non. Un peu de Gérard Mordilla? Alors, il y a un tout petit peu de Lucas, un petit peu de Dominique et beaucoup de non-dits.
C'est sûr. Ah bah oui.
Mais c'est toujours comme ça.
Mais oui, mais oui.
Troisième lecture, Lucas Fournier.
Hilda était un magnifique modèle parisien qui tomba follement amoureuse d'un écrivain américain dont les œuvres révélaient une telle violence sensuelle que toutes les femmes étaient aussitôt séduites. La fin. Tel un démon penché sur elle, les cheveux en bataille, ses yeux brûlants plongeant dans les siens, sa verge puissante martelant son sexe, le sexe de cette femme dont il avait d'abord exigé la soumission à son désir, à son heure.
Il fronce le nez quand même, Serge Joncourin, il n'est plus si convaincu. Tout à l'heure, vous aviez une hypothèse à Anaïs Nin.
C'est Anaïs Nin, si, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que là, elle est obligée de répéter à la fin qu'il avait exigé d'elle la soumission. Mais enfin, bon, si ça fait 300 pages, ils ont dû quand même le temps de faire connaissance. Donc, les règles du jeu, il pose un peu, c'est ce qui est curieux, c'est de poser les règles du jeu vers la fin. Mais enfin, bon, pour ce qui est du début, c'est clairement elle. Non, là-dessus, il n'y a aucun doute possible.
Hervé Le Tellier. Oui.
Oh, bah, de toute façon, là, c'est soit Lucas, soit Anaïs Nin. Hein.
Ouais,
non, je pense que c'est Anaïs Nin, à cause du martèlement. Bon, ce sont des clichés, mais quelle importance, puisqu'elle est payée pour faire ça. Hein. Bon, après tout, c'est très difficile de faire du cliché, de ne pas faire de cliché avec du sexe.
Vous êtes d'accord sur tout, c'est un peu inquiétant, ça.
Non, mais moi, je veux bien mettre Lucas, c'est pour qu'on ait une
chance. Non,
c'est embêtant.
Non, mais pour une fois qu'on est d'accord.
Ouais.
D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux dans la salle? Ce serait de qui? Mandilla, Lucas? Un peu de Muller, non? Pas de Muller? Oui, un monsieur au premier rang, Muller, oui.
Non, mais il y a peut-être un peu de tout le monde. Hein, tout le monde.
Non, ce n'est pas du tout du travail collectif. Non. Alors, en tout cas, vous optez pour Anaïs Nin, et moi, je vous lis le dernier texte. Il faisait une chaleur à rendre fou dans les cabines, dans les salons, dans les rues de Manhattan, partout, de sorte qu'Hilda n'eut que rarement le goût de tomber amoureuse cet été-là. La fin? C'était la première fois, et ce serait peut-être la dernière, qu'elle éprouvait ce sentiment d'orgueil et de puissance à n'être personne, absolument personne, soumise à la parfaite indifférence de ce corps, à l'exquise mécanique du pur mouvement.
J'ai changé d'avis, moi.
Ah bon?
Ouais. Je vais mettre Lucas en avant-dernier et Anaïs Nin à la fin.
Ah oui, il y a des gens qui approuvent, oui. Anaïs Nin, c'est le texte que j'ai lu.
Oui.
C'était le plus simple à lire. Moi, je suis très contente d'être tombée sur celui-là. J'avais pas de mots piégeux. Donc, Hervé Le Tellier, pour vous, le texte que je viens de lire est d'Anaïs Nin. Oui. Pour Serge. Donc, Serge, vous restez sur...
Moi, je suis têtu.
Oui.
Même si là, c'est vrai qu'il y a une sorte de flottement. C'est peut-être... Mais c'est la fatigue, là. Vous savez, ça fait une demi-heure qu'on est concentré. On n'a pas bu une goutte d'eau ni quoi que ce soit. Donc...
C'est le texte éprouvant quand même.
C'est éprouvant, oui, éprouvant.
Alors
après, pourquoi
ouais.
Je ne sais pas. Pourquoi il fait trop chaud, donc quand il fait trop chaud, on ne tombe pas amoureux. C'est ça que j'ai pas...
Ben, on transpire, pas... enfin, je ne sais pas. Ah, oui.
D'accord, d'accord. Je note. Hein, parce que je...
Alors, vous êtes d'accord sur le texte de Gérard Mordia, sur celui de Dominique Muller. Il y a une petite inversion entre vous, entre Luc...
À peine.
Entre Lucas Fournier je ne savais et Anaïs pas. Nin.
Ça, c'est la bisexualité masculine.
Alors, qui a en main les vraies phrases d'Anaïs Nin ?
Elles sont là.
C'est Lucas Fournier. Vous les relisez ?
Hilda était un magnifique modèle parisien qui tomba follement amoureuse d'un écrivain américain dont les œuvres révélaient une telle violence sensuelle que toutes les femmes étaient aussitôt séduites. Et la fin, pour le plaisir de Hervé. Tel un démon penché sur elle, les cheveux en bataille, ses yeux brûlants plongeant dans les siens, sa verge puissante martelant son sexe, le sexe de cette femme dont il avait d'abord exigé la soumission à son désir, à son heure.
Voilà, et ben c'est un gros point pour Serge Joncourt et pour tous ceux qui dans la salle ont voté pour ce texte. Bravo.
Ne jamais changer d'avis.
On connaît,
oui, mais oui, c'est connaissait votre droit, jamais changer
d'avis. Pour la beauté du geste, il a changé d'avis.
Oui, il est sympa.
Il a changé de sexe. Il a changé de sexe.
Il a changé de texte. Il a changé de texte.
Mais partenaire. Oui.
Alors, il marque un premier zéro, hein, mais c'est pas grave. Il y en aura peut-être d'autres. J'aimerais que maintenant, ce soit les auteurs des textes qui les lisent. Donc, Gérard Mordia, vous avez lu un texte qui est signé.
Qui est signé Lucas Fournier.
Voilà, et c'est Lucas Fournier qui va lire son propre texte. Et oui, et ce texte a été attribué à Gérard Mordia. Donc, deuxième zéro pour Hervé Le Tellier. Premier zéro pour Serge.
A priori, troisième zéro.
Alors, lisez-nous votre texte.
C'est nécessaire.
Lucas, vous-même. Oh, la fin juste, parce que le début...
À la fin, d'accord. Oui. Alors, sans un mot, Rango la retourna d'un coup de patte et elle ne sentit plus le sexe de l'homme entre ses lèvres rassasiées, mais la brûlure soudaine d'un châtiment qui infusait son venin entre ses fesses.
Voilà, ouais, voilà c'est ce que on en apprend quand même beaucoup.
C'est pas...
Je peux voir vos mains, Lucas. C'est vrai qu'elles sont velues.
Dominique Muller, vous avez lu le texte de qui ?
De Gérard Mordia, à qui je vais le donner tout de
suite. Ça ne s'arrange pas, puisque ce texte vous a été attribué. Non. Ça fait 3-0, Hervé.
4.
Vous êtes bien parti pour les 4. Oui. Lisez-nous juste la fin, oui, Gérard. C'est le meilleur moment, oui.
Oui. Sitôt qu'Hilda entra dans la chambre, Rango la tira contre lui et la saisissant par les cheveux, la força à s'agenouiller devant lui, tandis qu'elle gémissait, réclamant sa récompense.
C'est très Mordia, sa récompense.
Non, ça relève de la didascalie, là. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu pars de là, tu la prends, tu la... C'est vraiment,
c'est... Et enfin, moi je suis très fier que ça ait été attribué à Dominique Muller.
Ah ben voilà. Ouais. Et moi, je vous ai lu le délicieux texte de Dominique Muller. Vous voulez bien lire la fin, Dominique ?
Il est très convenable, n'est-ce pas, vraiment ? C'était la première fois, et ce serait peut-être la dernière, qu'elle éprouvait ce sentiment d'orgueil et de puissance à n'être personne, absolument personne, soumise à la parfaite indifférence de ce corps, à l'exquise mécanique du pur mouvement.
C'était très joli, j'étais très contente de défendre ce texte.
Mais là, je me rends compte que ça fait un peu horlogère,
maintenant. Ouais, c'est un peu suisse.
C'est un peu suisse, oui.
Alors...
Non. L'horlogère de Saint-Popol.
À Besançon.
Bravo, Serge Joncourt, vous avez identifié Anaïs Nin. Et ce n'était pas si facile. Toutes nos félicitations. Et pour boucler ce moment très érotique, enfin pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Gabriel Godard qui nous chante une chanson. De qui, Gabriel ?
Alors, une chanson qui a été immortalisée par Colette Renard, « Les nuits d'une demoiselle ».
Oui.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit,
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramonner l'abricot. Je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais choyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson. Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres, le jour je baise tout simplement.
Les Papous, vous avez dit mauvais genre, enregistré en public au Théâtre du Rond-Point à Paris, fin de la première partie. Une émission proposée par Françoise Tressard, équipe technique et de réalisation, Pierre Mine, Franck Lilin, Patrice Klein, Sébastien Huel, chargé de production Roland Dandalex. À retrouver sur franceculture.fr à la page des Papous dans la tête pour une seconde écoute pendant 1000 jours. Pour le podcast durant un an. Ainsi, vous garderez pour longtemps et pour vos collections ce numéro des Papous mauvais genre. On se retrouve pour la suite dimanche prochain, même heure, avec Dominique Muller, Gabriel Godard, Jean-Bernard Pouy, Jacques Jouet, Gérard Mordillat, Lucas Fournier, Hervé Letellier et Serge Joncourt. Et au menu, à vos pamphlets, où l'humeur se déchaînera contre le culte du vintage et l'arrogance des fins connaisseurs. Et puis un roman interactif, Disparition en série, pour les inspecteurs Tatin et Morel. Les exercices de style improvisés sur scène et sur le chat, la belette et le petit lapin, plus le final en chanson. Au revoir, je vous laisse en compagnie de Catherine Libert pour sa chronique sur France Culture Papier.